Vidocq, Mémoire, chapitre 64. Les chevaliers grimpants. Les chevaliers grimpants, que l'on nomme aussi voleurs du bonjour, donneurs de bonjour, bonjouriers, sont ceux qui, s'étant introduits dans une maison, enlèvent à la passade le premier objet qui leur tombe sous la main. Les premiers bonjoutiers furent à Surton les domestiques sans place. Ils étaient d'abord peu nombreux, mais bientôt ils firent des élèves, et leur industrie prit un tel accroissement que de 1800 à 1812, il n'est presque pas de jour où il n'est volé dans Paris de l'argenterie. Coco Latour, cour de qui je tiens ce fait, m'a rapporté que, dans l'origine, tous les bonjoutiers faisaient bourse commune. Plus tard, comme il se trouva parmi eux des paresseux qui, sans se donner la peine moindre, venaient prendre leur part des bénéfices, cette touchante confraternité cessa, et chacun se prit à travailler isolément pour son propre compte. Les plus fameux bonjoutiers, ceux du moins qui me furent signalés lors de mon entrée à la police, étaient D'Aresso, Florent, Salomon, Gorot, Cocolacour, Franco, Chimaud, Ville, Langer, Isaac, Lévy, Michel, Tenu, et quelques noms dont les quelques autres dont les noms ne reviennent pas à l'esprit en ce mémoire. L'almanach du commerce, l'almanach royal et celui des 25 000 adresses sont pour un bonjourier des livres très intéressants. Chaque matin, avant de sortir, il les consulte. Lorsqu'il se propose de visiter une maison, il est rare qu'il ne sache pas les noms de deux des personnes qu'il habite. Afin de se ménager une entrée en parlant au portier, il demande l'une et c'est l'autre qu'il tâche de voler. Un bonjourier est toujours mis avec élégance et chaussé avec la plus grande légèreté. Les souliers de daim sont ceux auxquels il donne la préférence. Encore a-t-il soin d'en rompre la semelle pour qu'elle ne crie pas. Et quelquefois, cette semelle est en feutre. D'autres fois, notamment en janvier, en hiver, le soulier de daim ou l'escarpin sont remplacés par le chausson de lisière avec lequel on peut monter, marcher, descendre sans faire le moindre bruit. Le vol du bonjour s'effectue sans effraction, sans fausse clé, sans escalade. Le voleur aperçoit une clé à la porte d'un appartement. Il frappe d'abord à petits coups, puis un peu moins doucement. Enfin, il frappe fort. Ne répondant pas, il tourne le bouton et le voilà dans l'antichambre. Il avance dans la salle à manger, pénètre dans les pièces voisines pour s'assurer s'il n'y a personne, revient sur ses pas, et si la clé du soufflet le buffet n'est pas en évidence, il la cherche dans tous les endroits où il sait qu'on a l'habitude de la cacher. L'a-t-il découverte, il s'en sert aussitôt pour s'emparer de l'argenterie, qu'il emporte ordinairement dans son chapeau, après avoir jeté dessus un foulard d'un mouchoir de batiste, dont la finesse et la blancheur annoncent encore l'homme comme il faut. Et pendant qu'il est en expédition, Le bon geôlier entend-il venir quelqu'un? Alors il va droit à lui, et lui souhaitant le bonjour d'un air riant et presque familier, il demande si ce n'est pas à monsieur un tel qu'il a l'honneur de parler. On lui indique ou l'étage plus haut ou l'étage plus bas. Alors, toujours souriant, se confondant en politesse et faisant force excuse, force révérence affectueuse, il se retire. Il peut arriver qu'il n'ait pas le temps de consommer le larcin, mais souvent aussi c'est une affaire faite. Et quand on s'en aperçoit, il est trop tard. Au premier aspect, rien de plus aimable, de plus avenant que la physionomie d'un bon geôlier. Sans cesse, il a le sourire sur les lèvres. Il est affable, révérencieux, alors même qu'il n'a pas besoin de l'être. Mais tout cela n'est qu'un tic, une grimace. Après quelques années d'exercice, il rit malgré lui. C'est une contradiction qui, à la longue, est devenue chronique. Et il salue sans s'en douter. On ne rencontre pas tous les jours des bons geôliers, mais à chaque instant, nous pouvons nous trouver face à face avec de jeunes abbés ou d'anciens prêtres défroqués. Un visage modelé au séminaire perd-il jamais les formes qui lui ont été imprimées? Et si la mine dévotieuse peut s'acquérir à perpétuité, on croira sans peine qu'il peut en être de même de la mine riante. Allez plutôt, petite rue Sainte-Anne, et faites-vous montrer à monsieur Coco. Parfois, malgré ses bonnes façons, il arrive que le bon geôlier a affaire à des gens qui s'avisent non seulement de le soupçonner, mais encore de le fouiller. Jamais ce cas, s'il est nanti, dans ce cas, il tombe aux genoux des personnes qui se fâchent. Et afin de les apaiser et de les amener à s'apitoyer sur son sort, il leur débite en pleurant un conte bien pathétique préparé à l'avance pour les occasions périlleuses. Il appartient à des parents honnêtes, c'est la malheureuse passion du jeu qui l'a entraîné au crime. Il en est à son coup d'essai. Et si on le livre à la justice, son père, sa mère en mourront de lourdes douleurs. Et si les larmes produisent l'effet qu'il s'en est promis, et qu'on lui dise d'aller se faire pendre ailleurs, il est repentant jusqu'à la porte. Mais si l'on est inflexible, il se désole tant qu'il ne voit pas sa garde. Mais la garde arrivée, il reprend sa sérénité et les muscles producteurs du sourire reviennent à leur état habituel. La plupart des voleurs de cette espèce commencent leur incursion dès le matin, à l'heure où les bonnes vont chercher leur crème ou tailler une bavette, pendant que les maîtres sont encore au lit. D'autres bons geôliers ne se mettent en campagne qu'aux approches du dîner. Ceux-là saisissent le moment où l'argenterie vient d'être posée sur la table. Ils entrent et en un clin d'œil, ils la font disparaître. C'est ce qu'on appelle goupiner à la desserte, travailler à desservir. Un jour, un de ces goupineurs à la desserte était en expédition dans une salle à manger. plat domestique entre portant deux plats d'argent dans lesquels sont des poissons. Sans se déconcerter, il va au-devant d'elle. Eh bien, lui dit-il, allez-vous servir le potage? Ces messieurs s'impatientent. Oui, monsieur, répond la servante, qui le prend pour un des convives. Je suis prête. Avertissez, je vous prie la société. Et en même temps, elle court à la cuisine, et le goupineur, après avoir en toute hâte vidé les deux plats, les fourre entre son gilet et sa chemise. La fille revient avec le potage. Et le faux convive s'était expliqué. Il n'y avait plus sur la table une seule pièce d'argenterie. On me dénonça sur ce vol. Aux circonstances qui me furent rapportées, ainsi qu'au signalement qu'on me donna, je crus à reconnaître l'auteur. C'était un nommé Chamox, dit Roger. Il fut découvert et arrêté, marché Sainte-Catherine. Sa chemise portait encore l'empreinte des plats dont la sauce avait dessiné la forme. Une autre variété de bonjourier exploite plus particulièrement les hôtels garnis. Les individus dont se compose cette variété sont sur pied dès l'aurore. Leur adresse pour déjouer la vigilance des portiers est inconcevable. Ils montent tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, font la revue des carrés, et s'ils trouvent les clés sur les portes, ce qui est assez ordinaire, ils les font fonner avec le moins de bruit possible. Une fois dans la chambre, si le locataire dort, s'en est fait de sa bourse, de sa montre, de ses bijoux, enfin de tout ce qu'il possède de précieux. Et s'il s'éveille, le visiteur a une excuse toute prête. Oh, mille pardons, monsieur, je crois toujours être au numéro 13. N'est-ce pas, monsieur, qui a demandé un bottier, un tailleur, un coiffeur, etc., etc. Les juifs et quelques femmes qui ne sont pas toutes israélites sont principalement en possession d'exercer cette industrie. Plus la voyageur, détroussé par eux pendant son sommeil, est resté avec la seule chemise qu'il avait sur le dos. Lecteur, qui souhaitait n'avoir rien à craindre des chevaliers grimpants, ne laissez jamais votre clé à votre porte. Ne prenez pas celle de votre buffet. Ne la cachez pas, car ils la trouveront infailliblement. Gardez-la dans votre poche. Que votre portier ait une sonnette ou un sifflet pour indiquer l'arrivée d'un étranger à l'étage où il va. Qu'il ne soit ni tailleur, ni cordonnier, ni bottier, enfin qu'il n'exerce aucun état que celui de portier. Qu'il ne balaye jamais le matin sans tenir sa porte fermée, ou sans laisser aux aguets sa fille ou une autre personne. N'oubliez pas, ou je crois vous l'avoir déjà dit, que les voleurs sont dans l'usage de chercher sous les paillassons, sous les tapis, sous les vases, dans les buffets, derrière les tableaux, dans les encoignures des poêles, sur les corniches, etc. Recommandez à vos gens de ne jamais souffrir que quiconque soit resté seul dans une pièce de votre appartement. Si quelqu'un, en votre absence, demande à vous écrire un mot, que votre domestique se garde bien d'aller lui chercher un papier, mais qu'il l'envoie à la loge, On lui fournira ce dont il a besoin. Méfiez-vous des vitriers ambulants, des étameurs de cuillères, des raccommodeurs de faïence, des petits savoyards, et de cette armée roulante d'hommes et de femmes qui colportent des couvertures de la toile, du calicot, de la mousseline, etc. Suivez les modistes qui montent avec des cartons, les marchandes à la toilette ou autres, qui viennent offrir des marchandises. Tous ces coureurs et coureuses sont des voleurs ou des affidés de voleurs qui poussent des reconnaissances. Soyez surtout sur vos gardes lorsqu'il y a ou qu'il y a eu des ouvriers dans la maison que vous habitez. Rarement, il ne se commet moins un ou plusieurs vols après le passage des maçons, carreleurs, couvreurs, peintres en bâtiment, etc. N'ayez affaire aux marchands d'habits vieux galons que dans la rue. Si vous pouvez faire autrement, ne vous logez jamais dans la même maison qu'une blanchisseuse, qu'un médecin, qu'une sage-femme, qu'un commissaire de bienfaisance, qu'un bureau de prêt, qu'une justice de paix, qu'un commissaire de police, qu'un avoué, qu'un huissier. Évitez les maisons où il y a beaucoup de mouvements et une perpétuelle circulation du public.